Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi soir, 22 février 2021. Tout de suite, le journal d'information sera présenté et puis un commentaire politique vous sera proposé. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. L'Iran et l'AIEA parviennent à un accord temporaire pour maintenir les inspections nucléaires essentielles pendant 3 mois. Au Yémen, 48 mercenaires à la solde du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi ont été tués ou blessés. Et le ministre libyen de l'Intérieur échappe à une tentative d'assassinat à Tripoli. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un accord temporaire a été conclu dimanche 21 février à Téhéran, la capitale iranienne, entre l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, OIEA, et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, en vue de maintenir les inspections essentielles pour une durée de 3 mois. L'accord a été annoncé peu avant minuit dans une déclaration conjointe du directeur de l'OIEA, Ali Akbar Salehi, et du directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi. La déclaration a été publiée sur le site officiel de l'OIEA après une visite d'une journée de M. Grossi à Téhéran. La déclaration conjointe reconnaît que l'Iran mettra fin le 23 février aux mesures volontaires définies dans l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de plan global d'action conjoint. La date butoir du 23 février a été fixée par le plan d'action stratégique pour la levée des sanctions, une loi adoptée en décembre 2020 par le Parlement iranien. Cette loi autorise le gouvernement iranien à cesser d'appliquer le protocole additionnel de l'AIEA si les sanctions contre l'Iran qui devaient être levées dans le cadre du plan global d'action conjoint sont toujours en place à cette date. Pour permettre à l'AIEA de poursuivre ses tâches d'inspection au-delà de cette date, l'AIEA et l'AIEA sont convenus que l'AIEA continuerait à appliquer pleinement et sans restriction l'accord de garantie qu'il a passé avec l'AIEA. Un accord technique temporaire compatible avec la loi du Parlement iranien a été conclu, en vertu duquel l'AIEA poursuivra ses activités essentielles de vérification et de surveillance pour une durée allant jusqu'à 3 mois, indique la déclaration conjointe. Le chef de la diplomatie iranienne a lancé une mise en garde à l'adresse d'Israël. Attaquer l'Iran est un acte suicidaire de la part d'Israël. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Israël mettra en péril la sécurité des pays du bassin du Golfe Persique s'il décide d'attaquer l'Iran. Les voisins de l'Iran ont commis l'erreur de laisser Israël entraîner le conflit sur leur territoire. Israël va bientôt saper la sécurité de ces pays alors qu'ils ne pourront pas se défendre, a indiqué le ministre iranien Mohammad Javad Zarif dans une interview accordée dans la nuit de dimanche à lundi 22 février à la chaîne de télévision libanaise Al-Manar. L'Arabie l'Arabie saoudite ne peut pas négocier ce qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir sur le plan militaire. Elle a prétendu mettre court à la guerre au Yémen dans 3 semaines. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, elle n'y est toujours pas parvenue, a-t-il précisé. Quant aux politiques de la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Iran, M. Zarif a indiqué qu'il valait mieux pour Biden de ne pas poursuivre la politique de son prédécesseur Trump, car elle ne fonctionnera pas. 48 mercenaires à la solde du gouvernement démissionnaire de Massoud Hadi ont été tués ou blessés ces dernières heures dans des affrontements qui sévissent dans la périphérie de Marib. Des sources tribales basées à Marib ont rapporté que 21 mercenaires pro-Hadi avaient été liquidés et 27 autres blessés à l'entrée ouest de Marib, où d'intenses affrontements font rage entre les deux camps, sans oublier que les combattants d'Ansarallah franchissent des pas géants ces dernières heures. Simultanément, les combattants yéménites ont pris le contrôle des 2 zones situées près du barrage de Marib. Auparavant, il avait été convenu que ces zones seraient réservées aux déplacés et à l'écart des affrontements, mais les mercenaires pro-Hadi ont servi les 2 zones pour enrayer la progression des forces de Sana'a en direction de Marib. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement de Sana'a a affirmé qu'une opération spéciale de sécurité avait été menée pour prendre d'assaut une prison appartenant aux mercenaires affiliés à Hadi dans la ville de Marib. 9 prisonniers ont été libérés. L'opération a été menée après que les enquêtes du ministère de l'Intérieur ont confirmé que les mercenaires de l'agression saoudienne avait vendu 2 prisonniers de l'armée et des comités populaires à un officier saoudien, un dénommé Hossein Sharaf Ahmad Jaaf. Un certain nombre d'hommes armés de la milice TFS soutenus par les forces d'occupation américaines ont été tués et d'autres blessés dans une attaque qui avait visé leur voiture dans la banlieue sud de Asake et c'est l'est de Deir ez-Zor. Des sources locales ont fait savoir à l'agence presse officielle syrienne Sana'a qu'une voiture appartenant à la milice TFS avait été visée aux armes automatiques sur l'autoroute Jadadi-Dajisha dans la banlieue sud de Rasake, ce qui a fait 1 tué et 2 blessés parmi les hommes armés des FTS. Dans la banlieue est des réseaux, des sources locales ont précisé que 2 hommes armés de la dite milice avaient été tués à la suite de l'explosion d'un engin explosif planté dans un véhicule militaire qui les transportait dans la localité d'Al-Barous. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté ce lundi 22 février 19 Palestiniens dans des zones différentes en Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a précisé que les forces d'occupation israéliennes avaient pris d'assaut le quartier de Rafr Arab, au nord de la ville occupée d'Al-Rots, au milieu du lancement de bombes à gaz toxique, ce qui a fait un certain nombre de Palestiniens étouffés et elles avaient également arrêté un Palestinien. Les forces d'occupation ont attaqué ce lundi à nouveau les agriculteurs palestiniens au sud de la bande de Gaza assiégée. Les forces d'occupation avaient ouvert le feu de leurs mitrailleuses sur les agriculteurs palestiniens à l'est de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, les forçant à quitter leurs terres. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement libyen, soutenu par l'ONU, a réchappé dimanche à une tentative d'assassinat par des hommes armés non identifiés dans l'ouest de Tripoli, la capitale du pays, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. À 15h, heure locale, 13h GMT, une tentative d'assassinat a pris pour cible le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachara, alors qu'il revenait de sa résidence dans le district de Danzour, dans l'ouest Tripoli. Une Toyota blindée a ouvert le feu sur le convoi du ministre à l'aide de mitrailleuses, précise le communiqué. Les gardes du corps de M. Bachara ont riposté vers les tireurs, tuant un homme armé et en capturant 2 autres, indique le communiqué, ajoutant qu'un des gardes avait été également blessé. Le gouverneur de l'État nigérian de Niger, Aboubakar Sani Bello, a déclaré dimanche que le gouvernement de l'État avait réussi à obtenir la libération des 53 passagers enlevés par des hommes armés le 14 février dans le village de Kondou de l'État. L'incident s'est produit 3 jours avant l'enlèvement largement médiatisé d'un grand nombre d'étudiants et de membres du personnel du Government Science College dans la ville de Kagara dans l'État du Niger. S'adressant aux journalistes à Minna, la capitale de l'État, le gouverneur a déclaré que les passagers du bus avaient été libérés après une série de dialogues, de consultations et de travail acharné. Sur les 53 personnes enlevées qui ont été libérées, 20 sont des femmes, 24 des hommes et 9 des enfants, a déclaré M. Bello, ajoutant qu'elles allaient subir un examen médical et une évaluation avant de retrouver leur famille. Le gouverneur a également déclaré que des efforts étaient toujours en cours pour sauver les étudiants qui avaient été enlevés par un groupe d'hommes armés non identifiés à la suite d'une attaque sur l'école mercredi dernier. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé dimanche à la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, APN, chambre basse du Parlement, et opéré un remaniement partiel dans le gouvernement de Abdelaziz Djerad, qui a été maintenu à la tête de l'exécutif. Dans un premier temps, le chef de l'État a signé un décret présidentiel portant dissolution de l'APN. Dans la même journée, il a remanié le gouvernement en maintenant toutefois inchangé les ministres régaliens, défense, affaires étrangères, intérieures, justice et finances, à l'exception de celui de l'énergie. En vertu de ce remaniement ministériel, le nombre des départements ministériels passe à 36 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, au lieu de 39 dans le précédent gouvernement. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. TMP, le J+1 du retrait iranien. Que se passera le 23 février en Iran, après tous les manquements de l'Occident à ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire? Le mardi 23 février, la République islamique d'Iran cessera d'appliquer le protocole additionnel de l'AIOA dans le cadre d'une loi adoptée par le Parlement iranien intitulée « La mesure stratégique pour l'annulation des sanctions et la protection des intérêts de la nation iranienne ». Cette loi, composée de 9 articles et de notes, a été ratifiée lors d'une séance plénière qui s'est tenue le 2 décembre 2020 avant d'être tout de suite approuvée par le Conseil des gardiens de la Constitution. La loi fixe une période maximale de 3 mois pour que le gouvernement fasse porter à 1000 le nombre des centrifugeuses M2IR et une période de 12 mois pour qu'il fasse porter à 1000 le nombre des centrifugeuses 6IR. La loi indique également une période de 5 mois pour que l'usine de production d'uranium métal à Ispahan soit mise en service, qu'un réacteur soit construit et que le réacteur de Khandab en Irak soit optimisé et mis en application. Par ailleurs, l'article 6 de la loi contraint le gouvernement de mettre un terme sur l'application volontaire du protocole additionnel de l'AIOA 2 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Si les pays signataires de l'accord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Chine et Russie, n'honorent pas leurs engagements envers l'Iran, que les relations interbancaires ne sont pas rétablies, que les obstacles à la vente de pétrole et produits pétrochimiques ne sont pas levés et que les revenus de la vente de pétrole ne sont pas facilement et rapidement récupéré. En vertu du protocole additionnel appliqué dans le cadre du TMP, traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Agence internationale de l'énergie atomique se réserve le droit d'avoir accès à n'importe quel site. Dans la foulée, Kazem Gharibabadi, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré que l'application de la loi sur la mesure stratégique pour l'annulation des sanctions et la protection des intérêts de la nation iranienne était une réaction stratégique aux politiques de Donald Trump pendant les dernières années ainsi qu'à l'inaction d'autres signataires de l'accord nucléaire. Il a ajouté que cette loi était réversible en cas du retour d'autres parties à leurs engagements et de la levée de toutes les sanctions visant l'Iran. Lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne d'information Presse TV, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré: Nous discutons avec Rossi de toutes les questions majeures ainsi que de prochaines mesures de l'Iran pour alléger ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire. Mais ils ne sont pas autorisés à avoir accès à des images enregistrées par les caméras de surveillance installées dans les centres nucléaires de l'Iran avant que les États-Unis ne rejoignent l'accord nucléaire. Nous envisageons aussi d'entreprendre d'autres mesures. Tôt ou tard, les États-Unis comprendront que leur politique vis-à-vis de la République islamique d'Iran ne menait à rien et qu'ils devaient finalement la modifier, a souligné le chef de la diplomatie iranienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui se passe actuellement au Yémen. Si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité, vous en êtes rendu compte que de vifs affrontements se déroulent actuellement sur le territoire yéménite, très particulièrement dans la province de Ma'arib, entre la résistance, Ansar Allah et l'armée yéménite d'une part, et les mercenaires à la solde du régime agresseur saoudien d'autre part. La résistance yéménite a remporté ces derniers temps, ces derniers jours, des victoires spectaculaires contre les agresseurs, à telle enseigne que cette province névralgique et sensible de Ma'arib est sur le point d'être tombée, c'est-à-dire la résistance yéménite est sur le point de reprendre le contrôle de cette province importante et névralgique aux agresseurs saoudiens et à leurs mercenaires. La province de Ma'arib est d'une importance primordiale parce que, en fait, cette province jouit d'une position tout d'abord géopolitique et géostratégique importante et d'autre part, il s'agit en fait d'une région pétrolifère. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est Madame Aïssar Midani. Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne, qui est avec nous pour cette émission depuis Paris. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à Monsieur Develet, bonjour à toute l'équipe de Presse TV et à tous les téléspectateurs.
Maître Develet est d'accord sur ce point avec moi, Madame Midani. La priorité est toujours en fait de donner aux femmes. On va commencer notre émission d'aujourd'hui avec vous, Madame Aïssar Midani. Je viens de lancer le sujet, ce qui se passe actuellement au Yémen, ces vifs affrontements qui sont en cours dans la province de Ma'arib. Quelle évaluation portez-vous, Madame Midani, sur ces événements relatifs au Yémen, s'il vous plaît?
Écoutez, au niveau du Yémen, je crois que la résistance yéménite remporte de très grandes victoires depuis un certain temps. Et ce qui a fait que, effectivement, les Américains ont commencé à refuser à mettre le holà par rapport à la guerre au Yémen. Biden dit qu'il faut mettre fin à cette guerre au Yémen. Je parle des paroles, hein, mais en réalité, ce n'est pas encore dans les faits. Qu'il y a une volonté d'arrêter de livrer des armes au gouvernement saoudien, que de toute façon, cette province de Ma'arib, elle est effectivement névralgique, comme vous l'avez dit vous-même. Elle a une position géostratégique très importante. Les Saoudiens sont toujours en train de vouloir asservir le Yémen à leur influence et à leur diktat. Hein. Et le peuple yéménite, en fait, met en avant toute la possibilité et toujours d'avoir sa souveraineté et puis le contrôle de ses ressources, le contrôle de ses ports et de ses aéroports. Et en fait, je voudrais quand même signaler que le Yémen souffre aussi d'un embargo étouffant depuis le début de cette agression contre le Yémen, depuis donc 2015. Donc, c'est une... Et puis, il continue non seulement à se battre et à remporter des victoires, et il montre sa détermination à avoir ses destinées en main et à disposer de ses ressources. Et c'est lui qui décide de son avenir, de son pouvoir et de la nature de son pouvoir. Donc, je crois que de toute façon, il est bien parti, le peuple yéménite est bien parti pour de grandes victoires et pour s'imposer sur la scène internationale malgré les Saoudiens qui, eux, de plus en plus, ont une image flétrie et une image d'agresseur dans la région, une image de tueur d'opposition, tueur de journalistes, de la manière la plus vile et la plus dégueulasse. Donc, franchement, je crois qu'ils vont finir par payer le prix de toutes ces interventions.
Et Maître de Volet, Madame Midani vient de le dire, en fait, les Yéménites, la résistance yéménite s'affirme sur le terrain, sur le plan militaire, la résistance qui remporte en fait des victoires successives contre les agresseurs, à telle enseigne que la résistance est en position de force, à telle enseigne que même en fait les pays qui soutenaient jusqu'à aujourd'hui, en fait, le régime de Riyad supplie en quelque sorte désormais la résistance yéménite de ne pas reprendre le contrôle de cette province importante et névralgique de Marib. Maître de Volet, vous en souvenez, en 2015, l'actuel prince héritier saoudien, le ministre de la Défense d'alors de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, avait promis en fait de reprendre, de prendre le contrôle de Sanaa dans 2 semaines, Maître de Volet.
Oui, je pense qu'à Riyad, il devrait relire les Grecs et la notion de hubris, et avec tout ce que cela entraîne, à savoir hubris entraîne le concept de némésis, donc le retour de bâton. Et là, force est d'avouer que 6 ans maintenant, presque 6 ans après le début de l'agression donc de la coalition émirato-saoudienne et de leurs mercenaires affidés, le retour de bâton est vraiment présent et sur le point maintenant de se matérialiser dans les heures, voire les jours maximum qui sont devant nous. La résistance yéménite, l'armée yéménite, sauf développement complètement illogique, devrait prendre le contrôle total de la province de Ma'arib, vous l'avez souligné, province névralgique s'il en est, extrêmement riche en hydrocarbures, située le long du littoral de la frontière méridionale saoudienne, et cela devrait permettre donc à la coalition résistance armée yéménite de consolider son ascension dans le concert des nations régionalement et de procéder probablement ensuite à la libération de toutes les autres zones du Yémen qui sont encore sous influence étrangère. Madame Midani l'a très bien souligné, les Occidentaux semblent avoir adopté un discours si je puis dire, apaisant, qui vise à désamorcer la situation. Mais le problème, c'est qu'ils ont, donné le pouvoir à une direction saoudienne qui, elle, est engluée dans ses propres contradictions internes. Vous l'avez souligné vous-même, la promesse de réduire cette rébellion yéménite en 2 semaines s'est soldée par un feu follet qui est devenu un ouragan, enfin un incendie de grande échelle. Malheureusement, pour Riyad, il semblerait que l'obstination l'ait emporté sur la raison. Le chef, si je peux dire, le porte-parole de la résistance yéménite ayant lui-même déclaré que l'initiative est dans les mains de Riyad, quelque part, s'ils souhaitent s'asseoir, il faut d'abord qu'ils arrêtent leur agression contre le Yémen, ses populations civiles, ses infrastructures, à défaut de quoi nous exercerons notre droit le plus légitime, qui est celui de nous défendre, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc nous sommes dans une situation un peu, dans un tournant fondamental de ce conflit, qui peut soit avoir une forme de processus politique qui amènerait toutes les parties régionales à peut-être organiser, s'entendre sur une cessation des hostilités et une solution politique, ou alors une fuite en avant, où la résistance plus forte que jamais infligerait des défaites de plus en plus cuisantes, jusqu'à peut-être remettre en cause le pouvoir politique de ses agresseurs.
Madame Midani, maître de Develé vient en fait de le dire, la résistance des Yéménites est en position de force à tel point que la résistance yéménite est dit avec force et détermination désormais que la balle est dans le camp saoudien. La résistance yéménite s'adresse aux autorités saoudiennes et dit « Si vous cessez vos bombardements et vos agressions, nous allons mettre fin à nos opérations contre des cibles légitimes qui se trouvent à l'intérieur du territoire saoudien. » Et vous venez tout à l'heure de faire allusion à cette prise de position de l'administration Biden. L'administration Biden qui dit que voilà, nous sommes prêts à aider l'Arabie saoudite à défendre ses frontières. L'Arabie saoudite qui avait en fait lancé cette guerre d'agression contre le Yémen, qui a détruit les infrastructures vitales du Yémen et du peuple yéménite, a besoin désormais, Madame Midani, des États-Unis pour défendre ses frontières face à la résistance yéménite.
Oui. Effectivement, alors l'Arabie saoudite, de toute façon, qui a tout détruit et qui a aussi animé aussi des terroristes, disons-le aussi, qui pactisent avec Al-Qaïda, qu'elle a envoyé aussi au Yémen. Là, ils veulent montrer qu'ils sont impuissants pour demander encore plus de l'aide. Et je voudrais signaler aussi par ce fait qu'ils ont aussi été les catalyseurs, voire les ordonnateurs de toutes les alliances avec l'État criminel d'Israël aussi, qui ont été faites. Ils ont fait pression sur les pays les Émirats Arabes Unis, sur le Bahreïn, pour passer ce type d'alliance. Il est certain que toute cette guerre, en fait, qui a été menée contre le Yémen, elle est là pour défendre les intérêts israéliens et pour avoir la main haute, hein, ou la main basse plutôt, sur les passages maritimes, du côté du Yémen. C'est des deux côtés d'ailleurs du Yémen. Et ça, c'est très important pour Israël, c'est très important donc pour l'Arabie saoudite, et donc ils veulent absolument fouler au pied toute existence souveraine au Yémen. Et ce sont quand même donc des velléités ou des objectifs qui sont très coloniaux, dominateurs, etc. Mais il est certain que le peuple yéménite ne se laisse pas faire et ne se laissera pas faire. Alors qu'ils agitent, les Saoudiens et les Américains agitent toujours un drapeau de paix, une sorte de masque, disant que nous sommes prêts à négocier, nous sommes prêts à cesser le feu, etc. Mais ils reprennent à chaque fois de plus belle. C'est un langage qui trompeur, hein, les yéménites ne se laissent pas faire et ils disent que ce qui est important, c'est effectivement les fêtes et pas du tout les paroles. D'ailleurs, comme on le voit partout, les Américains distribuent des paroles partout, mais ils font, au niveau des faits, ils font exactement le contraire. Ils disent qu'ils veulent se retirer, mais ils renforcent les présences militaires. Ils disent qu'ils veulent que les combats cessent et ils envoient aussi d'autres forces pour attiser les contradictions et attiser les guerres. Donc, de toute façon, il est certain que le peuple yéménite maintenant et la résistance yéménite sait exactement à quoi s'en tenir avec eux, avec aussi bien les Saoudiens que leurs maîtres américains et que leurs alliés israéliens. Donc, ils ne se laisseront pas faire et je crois que la victoire, elle est de leur côté aussi.
Maître Develet, Madame Midani vient de faire allusion, si vous voulez, cette piste israélienne, si je l'ai bien suivi, dans ce qui se passe actuellement au Yémen. Madame Midani dit que voilà, l'objectif en est d'assurer les intérêts, les objectifs israéliens également en territoire saoudien. Est-ce que votre avis également, est-ce qu'on voit une piste israélienne dans ce qui se passe au Yémen, Maître Develet?
Ben oui, certainement, la l'ombre israélienne dans la région est omniprésente sur tous les territoires, les théâtres d'opération, que ce soit directement par assistance militaire ou par diplomatie interposée. Je noterai que les Émiratis et leurs suppléants dans le mouvement séparatiste au sud du Yémen se sont rendus à Moscou pour essayer de convaincre Vladimir Poutine de soutenir l'idée de la création d'une entité artificielle à l'instar de ce qui se passait durant la guerre froide. Visiblement, ils n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont pas eu l'oreille de Moscou. Cette même coalition Émirati-FTC est maintenant en train de faire les yeux doux aux Israéliens, en leur demandant une assistance plus poussée, plus directe, moyennant leur promesse de signer eux aussi un accord de normalisation. On ajoute à ça le fait que les Israéliens, pour des raisons purement géopolitiques, géostratégiques, ont absolument besoin d'établir une tête de pont, on va dire, au large du détroit de Bab al-Mandeb, qui leur permettrait de pouvoir sortir de la mer Rouge et s'étendre au-delà, donc, par le biais de leur sous-marin nucléaire, lequel sous-marin nucléaire, pour l'instant, est bloqué à Eilat. Et malheureusement, pour eux, ils n'avaient pas prévu, il y a déjà quelques années de cela, lorsqu'ils ont initié cette agression, lorsqu'ils ont allumé ce feu, que la coalition qui compose la résistance et ses alliés réagirait de manière coordonnée à ce développement dans cette part de la région, et que maintenant, avec effectivement l'implantation d'une base russe au Soudan, les choses se compliquent pour les Israéliens. C'est ce qui en sort, en fait, c'est qu'une initiation est faite d'une séquence d'événements qu'ils pensent pouvoir maîtriser en fonction d'un plan qui porte sur le morcellement et selon des lignes ethniques et confessionnelles des pays voisins, mais que, si vous voulez, après maintenant près de, on va dire, une quinzaine d'années de ce plan, les pays de la région se sont finalement mis d'accord, ont pris les mesures nécessaires, et ce faisant, maintenant, anticipent et mettent leur pion en avant avant même que la partie des agresseurs ait eu le temps de remodeler leur tactique. Donc le jeu se resserre, l'étau se resserre, et il sera intéressant de voir, à l'aune d'une administration Biden qui, disons-le, fond du collier, est quand même assez faible dans sa communication, où on ne semble pas comprendre exactement qui parle au nom de qui. Le président Biden semblant ne pas posséder toutes ses facultés, le vice-président prenant l'initiative en violation de tous les usages protocolaires de passer des coups de téléphone aux chefs d'État étrangers. Les lobbies, dont le lobby israélien, bien sûr, mais aussi le lobby des armements, poursuivant respectivement leurs propres intérêts dans la région. C'est difficile d'imaginer que Washington, en tant que tel, puisse être la source ou en tout cas l'endroit où des solutions pérennes vont être trouvées.
Madame Midani, vous venez en fait tout à l'heure de faire allusion à la présence et des terroristes dans la de province de Ma'arib, des terroristes qui combattent de la résistance yéménite aux côtés de Saoudiens et de leurs agresseurs. Madame Midani, à chaque fois que les intérêts, si vous voulez, du régime des Saoudiens, également de ses alliés, en l'occurrence les États-Unis, l'exigent cette politique, si vous voulez, de soutenir, de faire appel, pardon, aux terroristes devient une monnaie courante, Madame Midani, que ce soit au Yémen, en Syrie ou bien ailleurs dans le monde.
Exactement, c'est une politique qui est vraiment systématique des États-Unis et de l'ensemble des atlantistes du camp de l'OTAN, d'utiliser des terroristes et des mercenaires pour les envoyer et non seulement déstabiliser, mais tuer les civils et faire toutes les destructions qu'il faut pour permettre aux États-Unis de mettre la main sur le pays. Et justement, je voudrais parler à ce niveau-là. Et ce ne sont pas que des mercenaires terroristes sur le terrain, mais ils ont aussi beaucoup de mercenaires au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, au niveau des médias, je dirais, qui font passer effectivement des théories qui sont complètement des positions et des théories qui cachent complètement leur jeu et qui masquent cette volonté et cet interventionnisme systématique des États-Unis et des pays de l'OTAN dans les pays qui ne cherchent qu'à être souverains, qui ne cherchent qu'à exploiter leurs propres ressources et les mettre à la disposition de leur peuple. C'est le cas, comme vous l'avez bien dit, donc au Yémen, en Syrie, en Iran, ils ont utilisé aussi beaucoup de mercenaires pour déstabiliser, en Irak, en Libye, et maintenant les mercenaires qui ont commencé à être avec eux une fois, ils sont utilisés partout. Donc on voit par exemple en Libye, il y a des mercenaires qui ont été dépêchés de Syrie, mais qui se battent des deux côtés, dans les deux camps, et qui ont été dépêchés aussi en Azerbaïdjan, qui ont été... c'est aussi une manière nouvelle, je dirais, de mener les guerres et de créer les bases d'une domination et d'une destruction des économies nationales et des souverainetés nationales au profit de leur diktat et de l'économie américaine qui, elle, est en train de s'écrouler, en fait. Elle est en faillite totale. Les États-Unis, je voudrais d'ailleurs dire à ce niveau-là quand même des exemples de faillite de cet État américain. C'est aujourd'hui, par exemple, il y a des problèmes climatiques, par exemple, au Texas. Les gens sont laissés sans électricité, beaucoup. Sans eau, sans... Et puis les gouverneurs, ils ont pris la fuite, ils sont partis au Mexique pour être au chaud. Donc franchement, c'est exactement pareil en France, en Allemagne, beaucoup. Etc. La population est plus en mal de couverture de sociale et autre chose, alors que les États n'arrêtent pas d'intervenir dans les autres pays.
Merci. Excusez-moi, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Aïssar Midani. d'avoir été avec moi après cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, maître Arne de Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. La province de Fars, située au sud-ouest de l'Iran, s'étend sur une superficie de 122 608 km² et à ce titre la cinquième province la plus vaste d'Iran. La province abrite un grand nombre d'attractions historiques, en grande majorité situées à proximité de ses principales villes. Cette semaine, nous vous présentons quelques villes importantes de la province de Fars, comme Jahram, Lorestan, Abadeh, Sepidan, Darab et Gerash. Une des grandes villes du Fars est Lorestan, qui possède également son lot de beauté historique et naturelle. Citons entre autres la forteresse antique Ejda Pekar, à l'est de laquelle la mère de Nader Shah Afshar repose dans un discret monument. Le marché Reysaliye, bon exemple de style architecturaux iranien juxtaposé, des styles pré-Safavide au Rajar, est stratégiquement entouré par plusieurs caravanserais Safavides. La citadelle sassanide Parvizeh et Vaz, perchée à 200 mètres au-dessus de la ville, la mosquée Jameh de l'Ar, œuvre safavide, le jardin Neshat, enclos sur une belle bâtisse, siège du gouverneur de l'Ar, à l'époque safavide, le mausolée de Pir Sorkh, vieille ermite soufie, l'antique réservoir d'eau de Dahan Shir, les réservoirs des vases ainsi que le pont Safavid Abbasi. La nature du Lorestan mérite également d'être citée, notamment son parc protégé où vivent des espèces végétales et animales, parfois endémiques et caractéristiques de cette région, à la croisée de plusieurs différentes biosphères. Comme la majorité des villes de la région, Darab possède une histoire prestigieuse que vient rappeler ses monuments. Citons parmi eux le temple de Fodazarach, en or duquel un moulin de pierre sassanide en très bon état peut être visité. La ville antique de Darab Gerd, datant de l'époque des Achéménides et qui, en tant que première capitale sassanide, fut baptisée en l'honneur du roi sassanide d'Arab et construite selon un plan arrondi sur une plaine vaste et fertile. la mosquée Jame, le plus ancien monument de la nouvelle ville de Darab, le temple de feu Azarju, à l'extérieur duquel deux puits de pierre ont été taillés à même la montagne, le bas-relief de Shapur, datant de l'époque sassanide, montrant les victoires de Shapur Ier contre les Romains, et le village historique de Navaigan, au voisinage de la citadelle Peykan. La nature de Darab, quant à elle, est fameuse pour ses points d'eau, notamment la source de Kasserout qui descend du Zagros et s'écoule dans la vallée Fort sous forme de belles cascades. Les 64 cascades du détroit de Rars, la belle cascade Fadami, à l'eau très douce qui ne s'assèche pas même au plus chaud de l'été, le village verdoyant de Laizangan avec ses belles prairies, vergers et grottes, et la source Golabi ravitaillant la ville en eau de façon permanente. Jahrom est une autre ville du Fars où se trouvent des monuments historiques incontournables, parmi d'autres la caverne Sang Shekan, datant de l'époque safavide. Le temple du feu sassanide, situé à proximité du mausolée de Barbad, le légendaire Aed de la cour des Sassanides et la citadelle Gabri, dont le puits creusé à même le roc attire l'attention. Citons encore le marché Zindié, datant du XVIIIe siècle, un jumeau du marché Vakil de Shiraz, au style très caractéristique de la période Zand. L'antique village de Behjan, à la nature vierge et préservée, vieux de plus de 15 siècles, l'antique village de Tadvan et sa grotte exceptionnelle, la route des épices, chef-d'œuvre d'ingénierie tracée au XVIe siècle liant l'Inde et l'Afrique à la route de la soie, la caverne Vara, la forêt de Chahdis, la grotte calcaire Chaffar et enfin le village Hakan et ses superbes prairies. Gerash est une ville à la fois ancienne et méconnue. Parmi ses monuments historiques ou naturels, on peut nommer la citadelle de Gerash ou Homayoun Dej, datant du XIIIe siècle et bâtie sur un mont, ainsi que le barrage sassanide de Fadak, construit au fond d'une vallée étroite afin d'y recueillir et conserver l'eau douce des rivières qui y passent. À proximité de la ville se trouve également Belkekal, le plus grand réservoir d'eau de l'Iran, dont la date de construction est inconnue. Des rénovations y ont été effectuées à la fin du 19e siècle. Sepidan est une destination de randonnée et de découverte de la nature. La ville est située à proximité de la passe de Tizap, au fond de laquelle coule une rivière d'eau très douce, protégée par la montagne et fraîche toute l'année. Une autre passe connue de la région est celle verdoyante de Bardioun et ses 12 cascades superposées. Une autre source d'eau incontournable, c'est le lac Barm, enclavé entre deux hautes montagnes, Rizboland et Ralegerd. Cette région montagneuse est tout aussi belle à visiter en hiver, alors recouverte de neige, quand la haute cascade Mourzian gèle, offrant un spectacle sublime. Parmi les autres cascades des environs, nous pouvons citer Margoun, qui sort du cœur même de la montagne, tout près du sommet, ce qui est en fait l'une des plus hautes cascades du monde. Et puis Chikan, situé à l'ouest d'un village de ce même nom et qui s'écoule dans la passe de Rouredan, réputée pour sa nature vierge car difficile d'accès. Margoun est une des belles chutes d'eau de la province du Fars. Margoun se trouve à proximité de la ville de Sepidan, une ville blottie dans la montagne couverte de forêts épaisses. Sepidan, qui se situe sur la chaîne montagneuse du Zagros, dans le nord du Fars, se distingue des autres villes par ses paysages naturels, ses cascades, ses sources d'eau et ses vertes forêts. En raison de son climat particulier, Sepidan accueille à toutes les saisons de l'année une foule de touristes iraniens et étrangers. Sepidan compte aussi de multiples sources d'eau minérale et des usines de production d'eau minérale qui exportent certains de leurs produits. Les attraits naturels de Sepidan ne se limitent pas à sa température douce et agréable, à ses sources et paysages merveilleux en été et au printemps. L'hiver, cette ville a également beaucoup de charme. Les sportifs viennent durant les jours fériés de l'hiver passer de bons moments au sein de la nature généreuse et luxuriante de cette magnifique ville. La cascade de Margoun constitue certainement l'une des curiosités touristiques du monde et fait partie du patrimoine national naturel de l'Iran. Margoun se trouve à 125 km de Shiraz, près d'un village du même nom, à proximité de Sepidan, sur la frontière séparant le Fars de la province de Korkiluyeh-Boyarahmat. Haute de 70 mètres et large d'une centaine de mètres, la chute d'eau de Margoun a créé un fantastique paysage naturel d'une extrême beauté. Ce qui différencie la chute d'eau de Margoun des autres cascades, c'est qu'elle est elle-même le début d'une rivière. L'eau se jette du haut du mont pour tomber en bas, sur une largeur de 100 mètres, créant ainsi un ensemble de petites cascades d'eau. Un tableau magnifique à vous couper le souffle. De hauts monts, des rochers couverts d'algues vertes et des sources d'eau viennent embellir le paysage. La chute d'eau gèle en hiver, créant de belles stalactites de glace. Voilà, si s'achève cette émission, rendez-vous la prochaine semaine.